Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi, c'est Virginie Rufnacht, chef du groupe Rassemblement au Congrès, également première vice-présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler notamment de la visite des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, qui viennent de passer 3 jours sur le territoire. Alors, ce sont 2 personnalités que vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous retenez de leur visite? Ils avaient dit avant, ce ne sera pas une énième mission. On a le sentiment que les gens sont un peu sur leur faim, que le bilan est un peu mitigé. Vous, vous en retenez quoi?
Bah écoutez, je pense que c'est important, et finalement c'est le rôle de l'État qu'ils ont incarné en venant ici, c'est important pour les Calédoniens, et en particulier les responsables politiques, que de telles personnalités nationales viennent nous faire prendre un peu de hauteur et nous faire sortir finalement... Peut-être que le terme de Marigot est un peu péjoratif, mais finalement, nous sommes enfermés là sur nous-mêmes, au sein du récif, sclérosés parfois avec la difficulté de penser avec un peu de hauteur et en dégageant des perspectives dans des combats qui émotionnellement sont forts et avec une intensité particulière de ce que nous avons vécu ces derniers mois. Donc, pour être concret, qu'est-ce que je retiens? Je retiens qu'ils ont été capables, et ça n'était pas arrivé depuis des mois, à mettre finalement au sein des groupes du Congrès de la Nouvelle-Calédonie tout le monde autour de la table, à échanger avec nous sur comment nous pourrions nous organiser pour effectivement nous donner toutes les chances de parvenir à dégager un accord à proposer aux Calédoniens. Et je retiens surtout, c'est important et c'est l'urgence, qu'ils ont apporté leur soutien aux amendements que nous défendons à Paris dans le cadre du budget de la nation, hein, de la loi de finances nationale, pour finalement mettre en place un plan pluriannuel urgent pour sauver la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens et la Nouvelle-Calédonie d'un effondrement total. Et quand vous avez le poids de 2 présidents d'assemblée de cette nature sur le soutien d'urgence indispensable pour la Calédonie dans le cadre des amendements que nous avons tous portés, qu'il s'agisse du Congrès ou du gouvernement, eh bien, c'est quelque chose de majeur dans la période dans laquelle nous nous trouvons.
On va revenir dans le détail dans tout ce que vous avez détaillé dans cette visite des 2 chefs de chambre. Tout d'abord, vous parlez, donc ils vous ont dit un peu comment ils devaient rouvrir le dialogue. Bon, ils ont réuni effectivement tous les groupes politiques au Congrès au dernier jour de leur venue. Ils avaient parlé d'une méthode, d'une feuille de route. Est-ce qu'ils ont arrêté des choses concrètement pour comment le fil du dialogue pourrait être pris pour les discussions sur l'avenir?
Écoutez, je crois surtout que nous leur avons proposé que nous prenions enfin notre responsabilité. C'est-à-dire que nous considérons, et d'ailleurs c'est dit de manière transpartisane dans tous les mouvements politiques calédoniens, qu'ils soient indépendantistes ou pas, qu'il serait peut-être temps qu'enfin nous proposions nous-mêmes à l'État à la fois une méthode et un calendrier de discussion.
C'est ce qu'ils ont dit, la plume, c'est vous qui tenez la plume, ont-ils dit, c'est les Calédoniens, ça va se faire en terre calédonienne, l'accord.
Alors pas entièrement, puisque l'État n'est pas juste un greffier de l'accord. À un moment donné, effectivement, l'État est un partenaire. Il y a les partisans de la France, il y a les indépendantistes et il y a l'État. Et quel que soit l'accord, nous le signerons à 3. Mais dans un premier temps, il est bien qu'enfin, nous changions un peu de logiciel, que nous assumions notre responsabilité, que nous leur proposions donc un calendrier, une méthode, et surtout que nous soyons capables d'abord discuter entre Calédoniens. Ça a été évoqué par différents mouvements, hein, les initiatives calédoniennes, les discussions calédoniennes. Et depuis des mois, il ne faut pas que les Calédoniens pensent que leurs élus sont des bons à rien, puisque nous avons discuté, travaillé durant des heures, produit de nombreux documents pour effectivement essayer de tenter d'aller vers cet accord que nous considérons que nous devons être capables de proposer, comme les anciens ont su le faire. Hélas, la violence qui s'est abattue sur la Nouvelle-Calédonie le 13 mai a tout emporté sur son chemin. Donc aujourd'hui, il n'est pas trop tard et nous considérons que nous devons nous remettre à l'ouvrage.
C'est ce que vous leur avez dit quand il y a eu des rencontres bilatérales également avec chacun des groupes politiques. Vous, le Rassemblement, vous leur avez dit quoi?
Alors, 2 choses. Nous, on leur a dit que, évidemment, toutes les énergies devaient être consacrées aujourd'hui à parvenir à cet accord. On leur a dit aussi, d'ailleurs, nous avons écrit le rassemblement, à la fois le groupe et le mouvement politique, ensemble, bien sûr, au ministre de l'Outre-mer, au Premier ministre et aux 2 présidents d'Assemblée, que dans toute situation d'accord par le passé, il y avait toujours eu un terreau fertile. Ce terreau fertile, c'est un projet fédérateur de développement de la Calédonie. Par le passé, c'était le nickel. Quand il y avait d'abord un accord sur le nickel, il y avait un consensus politique qui venait se poser sur cet accord nickel. Aujourd'hui, nous considérons que ça doit encore plus qu'hier être le cas, surtout dans la situation économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Et pour nous, ce projet fédérateur, c'est l'énergie. Et donc, on a demandé à l'État, non pas de déverser des fonds à n'en plus finir, comme ça a été fait ces dernières années, des fonds qui ont parfois été à fond perdu, précisément, parce que ça n'a pas permis de développer une économie endogène de la Calédonie, que nous créions nos propres moteurs de croissance. Et où est passé cet argent? C'est une question qu'on peut se poser. Nous, on leur propose d'investir dans une structure d'énergie décarbonée à bas prix. Ça sauvera notre métallurgie du nickel et ça permettra à la Calédonie d'être extrêmement à nouveau compétitive et attractive pour l'implantation d'investisseurs et d'un développement à venir. Ça peut convenir aux indépendantistes parce qu'on va sur l'autonomie énergétique et donc économique de la Nouvelle-Calédonie. Et nous, ça nous convient parce que nous avons toujours été pour une plus grande autonomie économique. Aujourd'hui, nous sommes plus dépendants que jamais.
C'est l'un des volets qui était contenu dans le pacte nickel. C'est l'un des engagements qu'avait pris le président de la République quand il était venu sur le territoire.
Absolument. Eh bien, nous proposons d'en faire un socle, encore une fois, un terreau fertile à l'accord politique. Nous leur avons aussi dit que il y a un chemin de crête difficile sur ce chemin de l'accord, mais entre finalement les partisans de la France qui souhaitent garder leur nationalité française, et d'ailleurs ça a été l'expression démocratique des Calédoniens sur laquelle on ne peut s'asseoir, qui souhaitent que l'État-nation, la France, protège la Nouvelle-Calédonie, la défende et l'accompagne évidemment, et donc qu'un certain nombre de régaliens soient exercé par la nation, et puis les indépendantistes qui ont besoin d'avoir cet idéal, sans doute ce symbole de souveraineté en perspective. C'est un peu la synthèse qu'a fait le président Larcher quand il propose finalement une souveraineté partagée dans la République. Il fait la synthèse de ces deux camps en essayant de porter une réflexion pour effectivement nourrir nos travaux.
Mais vous savez que c'est un terme qui a fait polémique, qui n'a pas été très bien reçu, parce que justement c'est très connoté en Nouvelle-Calédonie, souveraineté partagée, on pense tout de suite à indépendance association, indépendance avec partenariat. D'ailleurs, les indépendantistes ont tout de suite rebondi dessus en disant qu'ils étaient tout à fait pour une souveraineté partagée. Est-ce qu'il n'y a pas eu une maladresse, entre guillemets, de la part du président du Sénat?
En tout cas, à ceux qui pensent que ça pourrait être une maladresse, je les engage à lire l'accord de Nouméa, qui dit qu'en fait, l'accord de Nouméa est la mise en place d'une souveraineté partagée en un partage de compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, nous y sommes déjà, en vrai, dans une souveraineté partagée au sein de la République. Moi, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il va falloir que nous dépassions les mots pour cet accord. Parce qu'on voit bien, les mots, tout de suite, génèrent des crispations. Il faut quoi ? Il faut un accord qui garantisse l'expression démocratique, qui permette le développement de la Nouvelle-Calédonie et qui permette donc une Calédonie efficace, ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas efficace. Elle ne permet pas un développement économique satisfaisant et donc du travail, de l'investissement en Nouvelle-Calédonie. Et vous le savez, nous, on défend que pour être plus efficace demain, il faut remettre des compétences vers les provinces, comme ça a été le cas en 1988. Parce que ces provinces, et les communes aussi d'ailleurs, mais les provinces sont des collectivités efficaces, de proximité, qui peuvent développer des politiques. À la fois, elles permettent le partage politique en Nouvelle-Calédonie, mais surtout, elles sont efficaces. Aujourd'hui, depuis l'accord de Nouméa, tout a été recentré vers la Nouvelle-Calédonie, et nous nous cessons de nous battre. Et les populations ne sont pas fixées, ce qui était l'objectif du rééquilibrage. Elles ne cessent de descendre du nord et des îles vers la province sud, ce qui n'est pas l'objectif. Donc il y a vraiment un travail à faire tous ensemble pour parvenir à trouver finalement une voie d'équilibre qui finalement ne met personne en difficulté et assure un développement de notre territoire.
Concrètement, vous voyez comment la reprise des discussions? Vous disiez que vous avez beaucoup travaillé ensemble sous divers formats avec plusieurs groupes, plusieurs partis politiques, pas toujours les mêmes. Tout s'est arrêté pratiquement le 13 mai. Est-ce qu'on peut reprendre demain ou dans quelques semaines les discussions politiques comme s'il ne s'était rien passé, comme s'il n'y avait pas eu le 13 mai?
On ne peut jamais faire comme si un événement majeur, et en l'occurrence celui du 13 mai en étant, ne se soit pas passé. D'abord, la chose la plus difficile à surmonter au travers de cet accord, c'est le lien sociétal totalement brisé, qui sont les conséquences de ces émeutes et de cette violence extrêmement intense qu'ont subi les Calédoniens depuis le 13 mai. Vous savez, on peut mettre de l'argent pour reconstruire. Le plus difficile, c'est les âmes à réparer. Et finalement, le ressenti, l'effondrement psychologique d'un certain nombre de Calédoniens face à cette violence qui a été vécue sera sans doute pour tous les Calédoniens, pour l'ensemble d'entre nous, le plus difficile à surmonter demain. Mais pour répondre à votre question, le rassemblement a un ADN. Il ne s'appelle pas rassemblement pour rien. Et nous, notre volonté, c'est qu'à la fois, bien sûr, du côté des partisans de la France, on arrive à parler d'une voix sur cet accord et donc à travailler tous ensemble pour proposer et mettre sur la table une proposition commune. Ça, c'est une première chose et c'est le travail qu'on engage avec Elsie Ponga depuis des semaines et des mois déjà. Ça n'est pas simple. Hein. Vous savez que c'est facile avec les loyalistes, nous sommes très proches, c'est beaucoup plus compliqué avec Calédonie Ensemble, mais on considère que l'intérêt général de la Nouvelle-Calédonie fait qu'on ne peut plus se battre chez les partisans de la France en permanence parce que nous sommes d'abord divisés face aux indépendantistes, mais de surcroît, nous sommes aussi vulnérables et pas crédibles face à l'État.
Les loyalistes proposent quasiment aujourd'hui un front uni de tous les partisans de la France. Vous y êtes partisan ou vous pensez que chacun doit quand même garder sa personnalité au sein de la mouvance des partisans de la France ?
Ben, en fait, si vous voulez, nous ne pensons pas que l'unité passe par une fusion des structures hein, administratives. Hein, ce n'est pas notre choix. Et le Rassemblement a une histoire politique et une singularité dans le paysage politique. Il la conservera. Mais par contre, nous sommes très attachés à cette unité qui passe par l'unité d'une voix commune dans le cadre des discussions. Où nous devons cesser de nous battre et travailler ensemble pour être d'accord sur une proposition de solution institutionnelle pour l'avenir. Et c'est tout l'enjeu des discussions que nous avons, en dehors des caméras, aujourd'hui, pour parvenir à effectivement avoir une voix commune en la matière. C'est ça, cette unité qui est la plus importante, finalement, pour les Calédoniens. Et puis, évidemment, travailler avec nos vis-à-vis, avec les indépendantistes, pour prendre notre responsabilité calédonienne et dire à l'État, d'ici quelques temps probablement, voici les éléments sur lesquels nous ne sommes parvenus, nous ne sommes pas parvenus à nous mettre d'accord, et voici les éléments sur lesquels nous trouvons des voies de consensus.
On va y revenir, mais un mot encore, Calédonie Ensemble, vous dites qu'il faudrait aussi les ramener, si j'ai bien compris, dans une perspective commune avec les partisans de la France. Pourtant, le projet que vous portez, et que vous portez avec les loyalistes, d'ailleurs, on parle de fédéralisme interne aujourd'hui, on a l'impression que Calédonie Ensemble est vent debout contre ce projet et n'en veut absolument pas en parlant de partition, en ayant des mots très durs. Est-ce que vous pensez arriver à les convaincre de vous rejoindre ou est-ce que vous allez amender votre projet pour qu'il soit compatible avec ce que défend Calédonie Ensemble ?
Non, vous savez, c'est un point déterminant pour nous, l'efficacité de la Nouvelle-Calédonie au travers de ce retour des compétences en partie vers les provinces et en partie vers les communes. Et nous avons en ce moment même des discussions avec Calédonie Ensemble sur ces sujets, des discussions nourries où finalement il y a aussi dans leur projet des éléments qui sont discutables pour nous et qui peuvent être totalement acceptables. Mais sur ce point-là, nous sommes déterminés et effectivement, nous avons l'espoir de les convaincre à trouver finalement une voix commune sur ces sujets notamment. Et c'est tout l'enjeu des discussions que nous devrons avoir aujourd'hui et demain pour surmonter nos difficultés individuelles de mouvement politique et parvenir à porter une voix commune sur le sujet.
Alors les indépendantistes, ils sont encore plus divisés, si c'est possible, que les partisans de la France en sont aujourd'hui une vraie fracture. L'UPM, le Palika, ont annoncé qu'ils se retiraient, en tout cas de la gouvernance du FLNKS. On voit que vraiment ils sont extrêmement divisés. Les loyalistes disent souvent il y a les constructifs et les destructifs et les destructeurs au sein du FLNKS. Est-ce que vous pensez qu'ils vont retrouver une unité et que vous allez pouvoir travailler avec les deux composantes aujourd'hui des indépendantistes ?
Alors, on travaille déjà avec les deux composantes. A-t-on véritablement le choix ? Vous savez, quand vous êtes dans une négociation, vous ne choisissez pas vos partenaires. Pourquoi vous ne les choisissez pas ? Parce que qu'il s'agisse de l'Union calédonienne ou de l'UNI qui regroupe le Palika, l'UPM, ils ont été élus démocratiquement. Ils sont représentatifs, ils correspondent à des milliers de Calédoniens. Est-ce que, en excluant l'une de ces mouvances de nos négociations, on n'exclut pas des milliers de personnes en Nouvelle-Calédonie ? Et est-ce qu'on ne se heurte pas à revivre en fait ce qu'on vit en permanence ? Si vous voulez, nous on fait la différence entre le traitement judiciaire. Tous ceux qui ont commis des exactions dans le cadre des émeutes du 13 mai doivent rendre des comptes devant la justice et donc être jugés, sanctionnés le cas échéant. Ça, c'est une chose. Il faut bien faire la différence entre cela et il faut faire confiance à la justice pour faire ce traitement qui est laborieux, qui est long. J'étais moi-même entendu hier à la gendarmerie dans le cadre des enquêtes sur la CCAT. Mais dans le même temps, on ne peut pas exclure un mouvement politique des discussions sur l'avenir. Donc évidemment, nous travaillerons avec l'ensemble des forces représentatives de la Nouvelle-Calédonie. Et je veux penser aussi à l'Éveil océanien, qui est présent au Congrès aujourd'hui et qui joue un rôle au travers à la fois du président de l'Éveil océanien, mais aussi finalement de la présidente du Congrès, dans cette prise de responsabilité calédonienne pour proposer à l'État une méthode, un calendrier.
Enfin, l'UCE qui a créé la CCAT, qui n'a jamais pris vraiment ses distances avec ce mouvement insurrectionnel. qui n'a même pas condamné les exactions du 13 mai, est-ce qu'elle est encore légitime pour parler de l'avenir des Calédoniens, ou est-ce qu'il ne doit pas y avoir avant un geste, une justification, une explication, une demande de pardon, une réparation? Est-ce que l'UC aujourd'hui peut vraiment s'asseoir autour de la table pour parler de l'avenir des Calédoniens, alors qu'ils ont... ils ont étaient un peu les instigateurs, les commanditaires de ce qui s'est passé?
Alors, je ne sais pas si tout l'UC a été les commanditaires. Moi, je considère que tous les commanditaires doivent être traduits en justice. Donc, s'il y a au sein de l'UC des gens qui ont été des commanditaires des exactions, ils doivent effectivement être traduits devant la justice et répondre de leurs actes. À ce titre, nous ne discuterons pas avec eux. Nous ne discuterons pas avec les gens qui sont incarcérés. Nous ne reconnaissons pas les personnalités qui sont traduites en justice et incarcérées comme des leaders politiques dignes de discussion. Donc, les choses sont très claires. Mais une fois que vous avez dit que vous ne vouliez pas discuter avec l'UC, c'est quoi le plan? Donc, en fait, il faut être à un moment donné pragmatique, et c'est l'intérêt supérieur des Calédoniens qui doit primer pour nous avant tout. Et l'important, c'est de dégager cette solution et de leur proposer un avenir apaisé, parce que vous savez, on est 270 000 habitants. Regardez l'énergie qui est consacrée à ce territoire à tout niveau, les visites que nous avons. C'est à un moment donné notre risque, hein, le réel, mais nous nous sentons, puisque nous discutons beaucoup avec Paris, hein, c'est qu'à Paris, tout le monde en est ras-le-bol de nous et que plus personne ne s'occupe véritablement de nous et qu'on se retrouve comme un pays sous-développé.
On a l'impression que tout le monde s'occupe de nous, au contraire, il passe leur temps à venir.
À ce stade, espérons que ça dure. Et on fait en sorte pour que ça dure. On fait en sorte pour susciter l'intérêt national, ce qui est fondamental. C'est bien la raison d'ailleurs pour laquelle nous irons défendre au niveau du Congrès, tout groupe confondu, ces fameux amendements qui donneront 100 milliards à la Nouvelle-Calédonie, et que le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale se sont engagés à soutenir. C'est fondamental pour notre avenir immédiat.
Je reviens sur l'UC quand même. Vous n'attendez pas, vous ne leur demandez pas, vous parlez avec eux, vous êtes allé avec Pierre-Chanel Toutougourou notamment, il n'y avait pas que vous, hein, dans le comité interinstitutionnel dont on va reparler également à Paris. Vous ne leur demandez pas de condamner ce qui s'est passé? Ils ne l'ont pas fait. Il y a eu des condamnations de la part de l'UNI, il n'y en a pas eu de la part de l'UC. Est-ce qu'on ne peut pas au moins leur demander ça?
Ben écoutez, en tout cas, moi, ce que je note, c'est que, bien sûr, on peut leur demander ça, évidemment, mais le problème, c'est que je ne suis pas persuadée qu'il faille mettre tout le monde dans le même sac au niveau de l'Union calédonienne, mais dans la résolution...
L'UC est divisé aussi.
Dans le texte qu'on a défendu, le plan quinquennal que nous avons défendu, la résolution que nous avons défendue ensemble, il y avait notamment dans les premiers articles le retour à une sécurité complète en Nouvelle-Calédonie. C'est une forme finalement de condamnation de la violence, en disant qu'on devait revenir à un ordre républicain total en Nouvelle-Calédonie et qu'on devait reprendre la voie du dialogue et mettre fin à celle de la violence. C'est une forme de réponse pour ceux qui se sont engagés dans cette résolution de l'UC à dire « ça n'est pas la voie de la violence que nous voulons privilégier ». Voilà, mais c'est quelque chose qui leur appartient. Et c'est de l'ordre de leur responsabilité. Moi, je ne veux pas me mettre à leur place. Ce que je sais, moi, c'est que je souhaite que les Calédoniens bénéficient d'un accord, parce que c'est notre planche de salut et que nous en avons besoin. Et qu'en même temps, chacun assume ses actes. Puis vous savez, les choses, elles se règlent aussi lors des élections, hein. Donc, à un moment donné, le temps électoral reviendra. Moi et nous, au niveau du Rassemblement, nous défendons une trêve de quelques mois. Nous avons 4 mois objectivement devant nous pour aller chercher cet accord. Pas à n'importe quel prix, pas dans le fait de renier l'expression démocratique, parce qu'il est hors de question de s'asseoir dessus. Ça, les Calédoniens doivent bien comprendre que nous n'aurons aucune lâcheté ou aucune faiblesse sur ce sujet. Mais pour autant, nous leur devons cet accord, c'est notre responsabilité. Et ça va au-dessus de l'intérêt de l'UC, ça va au-dessus, c'est l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie et des Calédoniens.
Et donc, avant le 13 mai, vous aviez encore une fois, il y avait eu beaucoup de discussions, il y a eu plusieurs documents qui ont été publiés ou qui sont restés plus ou moins discrets. Sur quoi est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'il y a déjà la trame de cet accord? Parce que sinon, d'ici mars, ça va être un peu court. Mais est-ce que déjà, il y a les lignes de force? Est-ce qu'il y a un accord sur les institutions, sur le corps électoral? Est-ce que vous avez vraiment avancé sur tous ces points? Et est-ce que vous allez pouvoir reprendre le travail sur cette base-là?
Oui, je le crois. Nous avions avancé sur beaucoup, beaucoup de points. La difficulté qu'on a aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on a tellement souvent travaillé et ça a été voué à l'échec. Alors, je le disais, notamment par cette violence qui a tout balayé sur son chemin, qu'aujourd'hui, nous demandons aux Calédoniens un temps en dehors des caméras, sans, fanfare ni trompette, dans la discrétion, parce que nous leur devons le succès. Et nous ne voulons pas à nouveau échouer. Donc, il faut bien qu'ils comprennent que notre démarche, elle est très difficile, elle nous omnubile. On y rêve, on y pense la nuit, le jour. On est omnubilé par cela, par cette réussite indispensable sur ce chemin, sans encore une fois que ça soit à tout prix et sans renier. Et c'est ça qui fait toute la difficulté. à l'expression de, entre guillemets, chacun de nos camps en Nouvelle-Calédonie, donc trouver cet équilibre, ça veut dire qu'on avait discuté et il y avait des points d'équilibre nombreux sur beaucoup de sujets. Qu'il s'agisse du corps électoral, qu'il s'agisse des institutions, qu'il s'agisse du fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie. Il y a eu un travail qui a été mené par Calédonie Ensemble et, certains indépendantistes. Il y a un travail qu'on a fait, nous, le Rassemblement, avec les loyalistes, avec l'Union calédonienne, avec l'UNI et avec l'Éveil océanien. Nous essayons aujourd'hui, finalement, de rassembler les forces pour s'engager vers des discussions avec tout le monde. Parce que, vous savez bien, c'est un peu comme la mauvaise fée à la table. Hein, celle qui est tout au bout de la table n'a pas la bonne cuillère en argent et du coup va mettre à mal tout le dispositif. Et l'objectif, c'est que maintenant, nous soyons engagés et à la hauteur de nos responsabilités.
Les élections provinciales auront lieu à la fin de l'année 2025, a priori dans un an pratiquement, pour tenir les délais, pour... pouvoir valider un éventuel accord pour soigner, pour mettre à jour les listes électorales, etc. On dit qu'il faut que l'accord soit trouvé au mois de mars, que c'est la date limite. Ça vous paraît jouable ?
C'est une réalité. Nous le savons tous. Nous en avons tous conscience. Et indépendantistes et partisans de la France. Et donc, c'est l'objectif que nous sommes fixés, d'arriver à travailler ensemble pour être en capacité de proposer à l'État un certain nombre de choses, que l'État, à son tour, puisse faire sa part à lui de travail et que nous nous donnons la chance de parvenir à cela. Mais ça ne sera possible que si nous sommes sauvés économiquement d'abord. Parce qu'on ne peut pas discuter dans le chaos total. Et si la sécurité en Nouvelle-Calédonie est garantie. Et d'ailleurs, ça a été un point que le président du Sénat a soulevé, notamment dans l'entretien bilatéral qu'on a eu avec lui, mais avec l'ensemble des forces politiques, puisque nous sommes retrouvés tous ensemble, à un moment donné, avec les deux présidents d'Assemblée. Son message, et le message qu'il va délivrer à Paris, c'est que là, toute la période de discussion, qui est une période sensible, on va dire, eh bien, il faut absolument que les forces de l'ordre restent en nombre très important. C'est un message que nous adresserons au ministre de l'Intérieur également. Il faut protéger les Calédoniens et ne pas faire partir les forces de l'ordre, qui sont un tout petit peu moins nombreuses aujourd'hui, mais qui sont encore à un nombre élevé. On est à 27 escadrons de gendarmes mobiles. Au plus fort de la crise, on était à 38. Donc, il y a une diminution. Il ne faut pas que ça diminue. C'est un message qu'on adressera à l'État. Il faut protéger la Nouvelle-Calédonie, car ça peut remonter, c'est sensible, et il ne faut plus qu'il y ait cette violence et qu'elle soit endiguée complètement en Calédonie.
Concernant cette aide économique, justement, on en parle beaucoup, on a entendu des tas de choses. Certains trouvent que l'État ne va pas assez vite, pas assez loin, que ces aides sont insuffisantes. Et puis, il y a les deux plans, en tout cas, il y avait deux plans, un plan quinquennal, défendu notamment par le comité interinstitutionnel, on en parlait il y a un instant, avec une mission à laquelle vous avez participé à Paris, et puis le fameux plan PS2R, défendu par le gouvernement. Aujourd'hui, il n'y a plus de concurrence, ces deux plans ont fusionné. Il y a eu une réunion la semaine dernière d'un comité interinstitutionnel auquel participait également le gouvernement.
Absolument, la présidente du Congrès a réuni le comité interinstitutionnel dans lequel il y avait beaucoup de membres du gouvernement présents, pas le président, Louis Mapou, il n'était pas là. Mais en tous les cas, lors de cette réunion, nous avions, le Congrès, proposé des amendements dans le cadre de la loi de finances de l'État, qui désormais maintenant est analysé au Sénat, c'est le budget de la nation. Si nous ne sommes pas dans le budget de la nation, nous sommes très mal. Et nous n'y sommes pas aujourd'hui, réellement. Nous n'y sommes pas. Ça n'est absolument pas suffisant. Tout ce qu'il y a, c'est des garanties d'emprunt. Donc on peut encore emprunter. Mais la Nouvelle-Calédonie, elle est déjà à 340% de taux d'endettement. Donc là, on va devenir vraiment des SDF si ça continue. Ça veut dire que, clairement, c'est hyper important. Et donc on avait des amendements le 4 novembre dernier. Le gouvernement était présent. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons ajusté nos amendements en fonction de leurs demandes. Et la présidente du Congrès a immédiatement écrit pour proposer donc que nous allions défendre ces amendements ensemble à Paris. Hélas, le président du gouvernement n'a jamais répondu à la présidente du Congrès. Louis Mapou n'a jamais répondu à Velma Falayo. Ce que l'on trouve très méprisant, parce que dans cette phase, c'est une union sacrée que nous devons avoir. Nous devons refuser les demandes de l'État d'augmenter la pression fiscale de manière trop importante, parce qu'il n'y a plus une personne qui est en capacité de payer en Nouvelle-Calédonie plus d'impôts aujourd'hui. Presque 1000 entreprises sont au tapis du fait des exactions. La préoccupation majeure de ces entrepreneurs, c'est comment réassurer mon entreprise, comment être indemnisé par les assurances. Il y a des gens qui sont partis en masse ces derniers mois et ces dernières semaines. Nous ne sommes pas du tout en état d'aller augmenter la pression fiscale. Il faut donc résister de ce point de vue-là, parce que sinon, ça nous mettra définitivement en coupe réglée. Et en même temps, il faut être capable ensemble de dégager un plan de réforme que nous sommes capables de faire, notamment en matière d'économie, qu'il faut absolument viser. Et ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire tous ensemble. Donc nous regrettons, le président du gouvernement est parti tout seul. En tout cas,
Congrès, avec d'autres membres du gouvernement. Quand même.
Enfin, en tout cas, il a décidé de partir sans le Congrès, alors que nous aurions pu, sur cet événement, surtout que le Congrès avait fait toutes les démarches possibles pour nous réunir sur cette séquence, et je le regrette.
Donc il y a toujours une guéguerre Congrès-gouvernement.
Nous le regrettons, nous avons fait tout pour qu'effectivement ça ne soit pas le cas. Si vous voulez, il y a un gouvernement, le fonctionnement institutionnel qui a été mis en place par les signataires. C'est le Congrès qui nomme les membres du gouvernement. Ce gouvernement est collégial. Le président du gouvernement est un animateur, hein, qui, finalement, chaque membre est un animateur de son secteur. Mais tous les sujets se terminent au Congrès, puisque c'est le Congrès qui délibère. Ce n'est pas moi qui fais ce fonctionnement institutionnel. Il existe ainsi. À quoi sert de mettre une rivalité entre les deux ? Nous devrions travailler main dans la main pour l'intérêt des Calédoniens. Et le premier intérêt, c'est d'aller récupérer ces 100 milliards qui sont prévus dans le cadre des 3 amendements que nous déposons et que nous avons rédigés, et que cet argent arrive très rapidement. Et puis, vous savez, je vais vous dire, on va se battre et je pense qu'on aura... Enfin, je ne veux pas faire de promesses, mais j'espère qu'on aura ces... Surtout avec le soutien de poids qu'on a eu avec Gérard Larcher et Yann Brune-Pivet. Mais même si on a cet argent, il y a les tuyaux administratifs derrière. Et ce qui est vraiment une crainte pour nous, c'est que cet argent puisse être rapidement mobilisé. Parce que si les chefs d'entreprise attendent trop longtemps, si l'économie, on ne réinjecte pas rapidement, si etc., etc., eh bien, finalement, ils vont peut-être passer à côté et on aura encore plus de personnes au tapis.
Mais vous le savez, l'État pose des conditions. C'est à chaque fois une aide conditionnée. Alors vous allez me dire, la Calédonie n'est pas en mesure de faire des efforts supplémentaires, mais... Est-ce que l'État va l'admettre et est-ce que ces aides vont venir sans qu'il y ait un train de réforme adopté, lancé au moins par la Nouvelle-Calédonie ?
Mais nous sommes capables de proposer un train de réforme. Et le train de réforme, il ne passe pas par l'augmentation des prélèvements obligatoires. Il ne passe pas par ça. Et il passe de manière globale. Vous voyez bien, il y a un certain nombre de propositions aujourd'hui. NCECO a fait des propositions dans le cadre d'un plan. Donc les acteurs économiques se mobilisent. C'est aberrant que ce matin au Congrès, nous ayons donc des auditions de l'ensemble des acteurs sur une proposition du gouvernement de réforme de la TGC. De réforme de la TGC...
Demandée par l'État ou initiative seulement du gouvernement ?
Alors, l'État demande une réforme de la TGC, mais nous ne sommes pas d'accord pour venir prélever 8 milliards dans la poche des Calédoniens dans le contexte dans lequel on est. Je vous rappelle que ces exactions, si on avait empêché que toutes les entreprises soient détruites, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Hein. C'était quand même une compétence régalienne aussi, l'ordre public, même si bien sûr, ce n'est pas l'État.
Enfin, si l'UC n'avait pas tout cassé, on n'en serait pas là non plus aujourd'hui.
Nous sommes absolument enfin, d'accord.
La CCAT, pardon, pas l'UC.
Oui, la CCAT, mais nous sommes bien d'accord. Mais néanmoins, la réponse, parce qu'on n'avait pas les forces de l'ordre au moment où il le fallait, elle a été très longue et les milliards de destructions, elles sont dans une lenteur de réponse du fait de l'absence de forces de l'ordre dès le départ en Nouvelle-Calédonie.
Est-ce que ça pouvait être prévu et est-ce que c'est aussi le problème de l'éloignement de la Nouvelle-Calédonie, même si on le sait.
Il y aura des commissions d'enquête sur le sujet. Nous avons dit à Paris que ce n'était pas le temps de la commission d'enquête pour savoir quelles étaient les responsabilités d'État en la matière sur ce retard à l'allumage pour protéger les Calédoniens. Parce que l'ordre public, encore une fois, c'est une compétence régalienne. L'État sait nous rappeler les compétences que nous devons exercer au niveau de la Calédonie. Mais là, si nous sommes battus pour rester français, c'est aussi pour cette compétence régalienne. Mais enfin, pour finir sur le sujet... dans cette réforme de la TGC que propose Gilbert Thuyénon, on a un passage du taux des services de 6 à 10. On augmente la TGC où on doit récupérer 7 milliards. En tout cas, c'est très aléatoire. Ça. Enfin, c'est très approximatif, parce que c'est une estimation du mois d'avril, puisque la réforme n'a pas changé depuis le mois d'avril, c'est la même, comme s'il n'y avait pas eu les émeutes du 13 mai entre-temps, et comme si les chefs d'entreprise n'avaient pas autre chose à faire que de changer tout leur logiciel en matière de TGC pour changer les taux, puisqu'on passe de 4 taux à 3 taux à l'intérieur, réforme qui ne fait absolument pas l'objet d'un consensus et qui, par exemple, supprime les exonérations de TGC pour les primo-accédants qui veulent construire sur un terrain nu. On n'a pas du tout besoin que les gens retrouvent la confiance en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui et envie d'investir et de construire. Enfin, c'est ironique ce que je dis, c'est dramatique. C'est une réforme
ça
totalement
veut dire
que hors sol.
Le Congrès ne votera pas cette réforme de la TGC.
Notre groupe, je ne veux pas engager les autres groupes du Congrès, c'est certain que notre groupe ne le votera pas. On est dans une réforme totalement hors sol, comme s'il n'y avait pas eu d'émeute depuis le 13 mai, qui met une pression supplémentaire sur le consommateur, mais aussi sur les chefs d'entreprise qui sont au plus mal. C'est une réforme, vraiment, moi je demande aux membres du gouvernement si, en l'occurrence Gilbert Thuyénon, s'il était sur la planète Mars depuis le 13 mai ou s'il était bien en Calédonie, pour voir réellement la situation de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Nous sommes totalement défavorables à cette réforme.
Et à part le rassemblement, vous avez le sentiment justement que le Congrès il n'y a pas de majorité qui va se dégager au Congrès pour voter cette réforme et pour soutenir la réforme proposée par le gouvernement.
Alors, je pense que non. Parce
ou c'est
qu'en
trop
fait,
tôt pour le dire.
Franchement, du côté du Congrès, il y a aujourd'hui un esprit de responsabilité où nous souhaitons tous ensemble nous mettre d'accord sur un plan de réforme, et quitte à le faire aussi en lien, bien sûr, avec le gouvernement. Je vous rappelle que le Congrès a une faible administration, le gouvernement a une très forte administration, donc des services qui sont censés travailler sur tous ces sujets. Donc, les membres du gouvernement ont vraiment de la matière grise et des moyens humains pour travailler sur tel sujet, ce qui n'est pas le cas au Congrès. Mais nous sommes d'accord pour prendre l'initiative au Congrès, comme nous le faisons depuis des mois, par défaut de propositions du côté du gouvernement, pour les fameux amendements dans le cadre du budget national, pour le plan quinquennal. Nous avons félicité le plan S2R, c'est un plan de réforme, il faut aller plus loin, parce qu'il est beaucoup dans l'incantation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesures concrètes à l'intérieur. Mais nous avons félicité le travail qui a été fait. Nous n'avons jamais souhaité d'ailleurs une concurrence entre les deux plans, ce deux plans qui ont vocation à être complémentaires. Le plan pluriannuel, c'est pour avoir les moyens financiers immédiats dont nous avons besoin. Yaël Braun-Pivet a dit, ce sont des amendements vitaux pour la Nouvelle-Calédonie. Vitaux. Et nous allons nous battre et ferrailler à Paris pour obtenir ces moyens.
Le temps passe. Deux petits points encore. D'abord, déplacement à Paris. Donc, ça avait été annoncé. Gérard Larcher a dit qu'il fallait que vous soyez sur place avant le 5 décembre. Donc, il y a effectivement une mission qui va partir. Alors, quoi ? Mission transpartisane, mission interinstitutionnelle, mission politique. De quoi est-ce qu'il s'agit ?
Ah oui, elle est soutenue par tous les groupes du Congrès. Tous les groupes du Congrès se sont
engagés. Mais elle
n'est
pas politique. C'est pour voir les moyens financiers.
Alors c'est complètement pour la partie des amendements que nous allons voir. Nous reverrons Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher dans le format de l'ensemble des groupes. Vous savez, tout à l'heure vous me disiez, on reste un peu sur notre faim par rapport à cette mission. Il faut dire aux Calédoniens que ce qui a été construit lors de leur venue est quelque chose qui s'intègre dans une forme de durée et de profondeur. On voyait, c'est bien de faire de la communication. Alors peut-être ça aurait plus rassuré les gens si nous avions davantage communiqué. Mais il y a vraiment un lien très profond qui a été construit. Ça veut dire que ces deux présidents d'Assemblée, ils mettent tout leur poids dans la balance. Et nous les reverrons à Paris aussi sur ce fameux calendrier, cette méthode que nous pouvons proposer, dégager et sur les travaux que nous menons. Mais l'urgence, c'est l'aide économique pour sauver les Calédoniens. Et c'est sur ce sur quoi nous nous engageons.
Les discussions politiques plutôt à Nouméa qu'à Paris ?
Non, on n'a pas de doctrine en la matière. Ce que l'on veut, nous, c'est des discussions d'abord calédoniennes, parce qu'encore une fois, et les Calédoniens nous reprochent parfois, mais prenez votre responsabilité, vous êtes des enfants. Je veux dire, on a la mère patrie, et puis on a nous, et à un moment donné, il faut quand même qu'on arrive nous-mêmes à travailler entre nous, voir quels sont nos insurmontables, quel est le chemin qui peut être tracé, et de toute façon, tout cela viendra devant les Calédoniens. Ce sont nos censeurs et c'est eux qui décideront si ce sur quoi on s'est engagé est raisonnable ou pas.
Mais
c'est ça qu'il faut dire.
On a parlé d'une réunion avec le président de la République, avec le président de la République aurait invité les groupes politiques à venir à Paris pour en parler. Alors, au début, c'était septembre-octobre. Bon, c'est raté. On parle de décembre maintenant. C'est toujours envisagé. Il n'y a rien de prévu, rien de fixé.
Je ne vais pas parler pour les autres groupes, mais je sais aussi ce qu'ils ont dit. Pour notre part, nous avons dit que ça n'était pas une bonne idée. Parce que vous savez, il faut arrêter de faire une réunion pour faire une réunion. Il faut que quand nous revenions devant l'État, et nous avons proposé de revenir devant l'État, eh bien, nous ayons réussi à travailler, à construire de manière sérieuse et responsable. Si c'est pour faire de la com et avoir une photo avec le président de la République et tous les groupes à Paris, c'est pas ça que les Calédoniens attendent. Ils attendent qu'on leur propose quelque chose, qu'on dégage l'horizon de leur avenir, qu'on leur dise, peut-être on peut s'engager sur cette voie, c'est une voie de paix, elle respecte la démocratie, et que chacun y retrouve un petit peu son ambition, son orientation. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire. C'est très difficile. C'est obsédant, je dirais. C'est obsédant. C'est très difficile parce que, encore une fois, nous sommes sur la ligne de crête. Il faut que les Canadiens comprennent que notre vie, elle n'est pas simple. Et je sais qu'il y a beaucoup de critiques à l'égard des politiques, mais c'est vraiment le poids de la responsabilité qui pèse sur nos épaules. En tout cas, du côté du Rassemblement, Alcide Ponga et moi-même, nous sommes complètement investis dans cette démarche, sans rien renier.
Un mot, si c'est possible, un peu plus, sur la radiation de 5 000 électeurs sur les listes électorales de Nouméa. On a appris ça il y a quelques jours, il y a 48 heures. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut y faire ?
Pour moi, c'est une nouvelle très alarmante. J'ai communiqué notamment sur ma page Facebook sur le sujet, dès l'annonce. C'est très inquiétant parce qu'une personne qui, simplement, pour une virgule mal placée dans l'adresse ou une lettre de l'adresse fausse, s'est vue radier. Donc, 5 000 personnes sont radiées aujourd'hui. S'il faut, elles n'avaient pas vocation à être radiées, c'est-à-dire qu'elles sont bien inscrites sur cette liste provinciale. Donc, on a sollicité l'ensemble des Calédoniens qui auraient subi cette mesure. D'abord, en allant regarder sur le site de électeur.nc, sur lequel vous pouvez, avec votre date de naissance, etc., voir si vous êtes encore sur la liste ou si, par malheur, vous auriez été radié. Pour ceux qui ont été radiés, j'ai déjà eu beaucoup, beaucoup de retours là-dessus. Nous allons leur répondre qu'ils ne s'inquiètent pas, on ne leur a pas répondu tout de suite, mais nous allons traiter chacun d'entre eux pour les accompagner et les aider à ne pas être radiés à tort, parce que, vous savez, c'est tellement compliqué de s'inscrire sur la liste provinciale, c'était vraiment pas le moment de radier les gens. Donc voilà, nous avons accueilli cette nouvelle manière défavorable, on ne comprend pas le sens de cette démarche, et en tous les cas, nous ferons ce travail auprès de chacun et de chacune de ces personnes qui auraient subi une radiation éventuellement.
De toute façon, les listes vont devoir être mises à jour avant les prochaines provinciales, ça c'est une certitude.
C'est évident, parce que vous le savez, la
donc recomposition... Donc ceux qui ont été radiés pourront être réintégrés.
Alors ça c'est certain, mais c'est surtout qu'on va essayer de le faire tout de suite d'abord, si, puisqu'ils étaient sur la liste et qu'ils avaient vocation à y être. Et ça, encore une fois, c'est une erreur d'adresse, donc vous voyez bien. Et puis par ailleurs, la recomposition du corps électoral est un des éléments de l'accord à venir. On ne peut pas continuer avec des Calédoniens...
On n'est plus dégel. On dit réajustement, élargissement,
oui, ça passe
réajustement.
Par, ça passe par utiliser des mots qui sont peut-être plus acceptables par tous, mais en fin de compte, on ne peut pas rester avec ce corps électoral actuel, c'est pas possible, qui exclut des milliers de jeunes Calédoniens nés sur le territoire, qui exclut des conjoints de Calédoniens, qui exclut des enfants ou des parents de Calédoniens, enfin c'est plus possible.
Les indépendantistes sont admis aujourd'hui?
Alors ben, je pense qu'il y a une conscience. L'Union Calédonienne n'a jamais été pour ne pas bouger sur le corps électoral, en fait. Eux, ils avaient une théorie, notamment les natifs, ils en avaient déjà discuté. Donc, il y a un sujet là-dessus. Et quand on a été en discussion avec eux, on avait des pistes. On avait évoqué des pistes sur le sujet. Et notamment, vous savez, c'était la citoyenneté. Et moi, je ne veux pas parler à leur place. C'était la citoyenneté qui leur tenait à cœur. On a la capacité de donner un peu corps à cette citoyenneté calédonienne. Et ça, ça ne pose pas véritablement de problème. Donc, c'est une nécessité. On ne pourra tenir des élections sans recomposition du corps électoral. Il faut que les Calédoniens le comprennent. Et je regrette qu'il y ait tant de rumeurs et qu'il n'y ait pas un travail de pédagogie qui ait été fait du côté indépendantiste sur de tels enjeux. Parce qu'avoir comme prétexte dans la rue le dégel du corps électoral pour justifier la violence que nous avons eue, ça n'a aucun sens. Et c'est complètement décalé par rapport à l'enjeu lui-même et à la réalité de la recomposition du corps électoral.
La fin de ce magazine Transparence. Merci Virginie Refsnac d'avoir accepté notre invitation.
Merci.